Et sans transition, il a un pantalon. C'est Jérôme. Bonjour Jérôme.
Bonjour. J'ai un short.
T'as un short, oui, oui. T'as pas un pantalon. Mais disons que tu as un... Comme on a fait toute l'émission sur Colifichet, Fanfreluche et l'histoire du pantalon, tu as un vêtement fermé.
Tout à fait.
Voilà, tu n'as pas un vêtement ouvert.
Exactement.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te promener en jupe ?
Je crois pas. Alors peut-être, évidemment, pour me déguiser, quoi. Parce que, voilà, c'est... Quand j'étais petit, sans doute, lors d'une pièce de théâtre, à l'école primaire ou au scout, un truc comme ça, quoi.
Et pourquoi est-ce que tu ne portes pas de jupe ?
Je pense que j'ai été socialisé au fait que je ne devais pas porter de jupe, mais plutôt un short ou un pantalon.
C'est parce qu'on réfléchissait justement, l'homme et la jupe, pourquoi les hommes ne portent pas de jupe. Et donc moi j'ai pu lire sur Facebook, entre autres, un gars qui a dit « je n'ai rien à revendiquer, donc je ne mettrai pas de jupe ».
Ah, parce que la jupe
pourrait être un outil
de revendication.
Et comme les bus, les chauffeurs de bus nantais.
Ah oui, qui ne pouvaient pas porter de short à cause du fait qu'ils faisaient... Enfin, parce qu'il faisait trop chaud, ils ont demandé à porter une jupe. Enfin non, ils ont fait en sorte de protester en portant une jupe, parce que ça, c'était autorisé pour les conductrices.
Voilà,
c'est ça.
Voilà. Mais donc, là, t'es pas ici pour parler de la jupe ou du pantalon. Et enfin, quoi que.
Mais par contre, ça m'intéresserait de réécouter, du coup, l'émission, en tout cas le début, parce que je m'y connais pas très bien là-dessus, et ça a l'air quand même bien intéressant, quoi.
Bah, ok, je mettrai en podcast juste après. Mais donc, toi, t'es là pour parler de la thématique cette année, le déclin de l'Empire du Mal sur le Festival Esperanza, sur Radio Esperanza aussi, évidemment. Alors moi, je voulais d'abord te demander si on a eu un échange à un moment de mail, et j'avais marqué la chute de l'Empire du Mal, et t'as directement corrigé en disant non, le déclin. Mais est-ce que le déclin n'emmène pas directement à la chute ?
Ou directement, grosse question philosophique. Est-ce que le déclin n'amène pas automatiquement à la chute ? En fait, le truc, c'est que la chute, ça a quand même une connotation clairement un peu plus négative, dans le sens où ça va, s'il y a une chute, ça va s'écraser, il va y avoir non pas un atterrissage, mais véritablement un écrasement, quoi, une chute au sol. Le déclin, c'est plus, en tout cas, c'est l'idée qu'on voulait en mettre, c'est l'idée qu'il va y avoir, il y a une domination présente, comme il pouvait y avoir des dominations géographiques, culturelles, même au niveau des armées territoriales avec les empires. Et le déclin, c'est vraiment ce côté, cette prestance qui va diminuer petit à petit, ce prestige qui va diminuer petit à petit, mais aussi la crédibilité, la légitimité, quoi. Donc on voulait être moins dans l'objet physique qui tombe, mais plus dans quelque chose de symbolique, en fait, puisqu'en fait je pense que tout va se passer dans les mentalités, dans les pratiques, dans la culture des gens. Et donc voilà, on voulait quelque chose de plus, voilà, de plus symbolique, subtil à ce niveau-là. Et par ailleurs aussi, ça marchait bien au niveau de l'irisme, puisqu'on faisait référence au déclin, au film Le Déclin de l'Empire américain, et donc empire et déclin fonctionnaient bien. Voilà, bon, ça c'est plus de la rhétorique marketing, mais voilà.
Mais du coup, quand on entend empire aussi, et là on va switcher directement sur une question qu'on a posée hier et qu'on nous a interpellé d'ailleurs sur Facebook là-dessus. On a dit que finalement le capitalisme était né d'une société patriarcale.
Oui, moi je pense en tout cas, c'est d'ailleurs un des débats qu'on va avoir dans l'espace débat, c'est-à-dire que le capitalisme a soit un rapport de domination économique, et que ce rapport de domination-là était déjà possédé par des hommes à la base, et que donc automatiquement les rapports économiques dans les échanges, dans la manière d'avoir pensé l'échange, le libre-échange et l'économie de marché a été pensé par des hommes avec des rapports d'hommes, quoi. Et donc oui, on pourrait effectivement dire que le capitalisme a des relents patriarcaux, ou a été pensé de manière patriarcale, mais au-delà de ça, moi je pense que le capitalisme s'adapte très bien à tout type de société, et que c'est ça la force du capitalisme, il est très caméléon, et donc il pourrait très bien s'adapter dans une société matriarcale si les femmes ont... Enfin, ça c'est vraiment l'exemple basique extrême. Mais je pense que oui, le capitalisme pourrait s'adapter à des sociétés même un peu plus solidaires, pourrait s'adapter à des sociétés un peu plus matriarcales. Je crois que c'est ça. Il faut se méfier, quoi, de se dire qu'à partir du moment où on aura plus d'égalité homme-femme, il y aura moins de capitalisme. C'est pas, on pourra avoir plus d'égalité.
C'est très joli en fait, hein, de
ouais,
se
oui,
dire ça, quoi.
Non, oui, c'est, voilà.
Mais donc aussi le côté du déclin de l'Empire du Mal, c'est vouloir aussi quelque part amener à une société pensée différemment. Ou est-ce que là ça va vraiment trop loin, il faut d'abord changer, c'est pas une société qu'on veut changer, c'est déjà ne fût-ce que les têtes.
Ben, en fait c'est un peu, donc dans le schéma des rapports de domination, on a le rapport de genre qui est pour moi le premier rapport de domination. Celui, j'ai envie de dire presque l'originel, quoi, même si on veut dire le rapport de domination biblique, quoi, parce que dans Adam et Ève, c'est la fille qui a foiré, quoi.
Ouais, bah elle est sortie d'abord de la côte d'Adam.
Oui, et en
côte,
plus de
quoi,
ça, en plus
de
ça,
pas de donc, sa tête, hein, de sa côte, ouais. Quoi.
Donc en plus du fait que, oui, c'est ça, elle est sortie d'Adam, quoi, donc bref. Et donc, c'est un peu le rapport de domination originel, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, il y a une imbrication dans tous les rapports sociaux et donc dans toutes les manières de faire groupe au sein de la société. Donc, je pense qu'effectivement, oui, il y a une volonté d'une transformation radicale de la société quand on parle de renversement des rapports de domination de genre, sans oublier, évidemment, les autres formes de rapports de domination. Et c'est pour ça que nous, on est vraiment... On se dit... en tout cas, on a axé cette campagne sur quelque chose d'intersectionnel, quoi, et donc de pouvoir assumer le fait que les rapports de domination se renforcent en fonction de en fonction de ta couleur de peau, en fonction de ton origine sociale, culturelle, et qu'il y a des rapports de domination aussi de l'identité sexuelle, voilà. Donc il y a clairement une, en tout cas nous la manière dont on l'avance, il y a clairement une idée de renverser tous les rapports de domination, donc d'avoir une volonté de voir quelque chose de foncièrement égalitariste, et donc pour ça c'est pas juste histoire de dire d'avoir une parité au Parlement, c'est pas juste histoire d'avoir une belle journée de violence du 25 novembre contre les violences faites aux femmes, mais il y a quelque chose de plus profond. Et par ailleurs, je reviens à la question précédente, dans le sens où on se demandait si capitalisme et patriarcat étaient liés. En fait, il pourrait y avoir, enfin, le communisme de l'URSS, c'était très patriarcal, et il peut y avoir des sociétés qui sont très écologiques, qui sont très patriarcales aussi. En Amérique latine, tu as des sociétés, genre par exemple la Bolivie d'Evo Morales, ou même l'Équateur de Rafael Correa, qui était quand même... Enfin, qui avait une volonté en tout cas plus sociale, plus égalitaire, plus solidaire dans la manière de redistribuer les richesses, en fait restait très très patriarcale dans les traditions, dans la culture, dans la manière d'attribuer les ressources, même les ministères étaient aux mains des hommes. Il y a eu un scandale encore avec Evo Morales et une de ses maîtresses, et c'est la maîtresse qui a ramassé. Enfin, donc voilà, c'est pour ça que oui, il faut voir big pictures, il faut voir tout en même temps, mais on peut faire qu'un focus par an.
Il y a moyen de décliner encore, quoi. Mais alors, du coup, là, tu me dis, oui, c'est un peu contre toutes les formes de domination et de discrimination. Mais le déclin de l'Empire du Mal, du coup, c'est un peu tout tapé sur la tête des hommes.
Non, en fait, c'est assumer le fait qu'il y a une domination masculine. Ouais. Donc, c'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, je peux totalement assumer que je suis privilégié, que je ne dois pas user de toute une série de stratégies pour rentrer tard le soir, que je ne dois pas subir à longueur de journée des petites remarques qui me renvoient à un objet sexuel ou à un objet de nettoyage domestique. Je n'ai pas 35% de tâches domestiques en plus à faire quand je rentre à la maison, je dois pas faire mes preuves en plus ou plus que les autres au boulot ou même en fait quand quelqu'un rentre dans une pièce on m'adresse directement la parole, ce qui est pas nécessairement le cas des filles. On m'interrompt beaucoup moins aussi, tu vois. Bon, bref, j'ai tout au long de ma journée un statut de privilégié en tant qu'homme et en plus en tant qu'homme blanc, et donc là on fait le lien avec les autres rapports de domination. Et donc c'est pas taper sur la tête des hommes en disant vous êtes responsable de elles sont victimes, nous sommes coupables. C'est plutôt l'optique de se rencontrer autour de ces thématiques là et de dire qui a des privilèges ici, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de déconstruire aussi les privilèges qu'on a acquis, la manière dont on a été socialisé à ça, et de pouvoir faire attention à nous, nos comportements d'hommes. Moi, j'ai pas de problème à dire que j'ai effectivement eu 2-3 bonnes claques de la part de potes, oui, qu'on pourrait appeler féministes, mais qui se rendaient juste compte du sexisme ordinaire qu'elle subissait tout le temps, et j'ai dû changer des manières de faire, des manières de me comporter, et j'ai encore des trucs à améliorer pour effectivement essayer de rendre plus respirable, mais aussi d'être plus cohérent avec les filles mais aussi les autres, quoi, qui m'entourent.
Alors là, j'ai juste une petite anecdote vite rapide. L'année passée, je vais inscrire mon fils dans sa nouvelle école. Je vais avec son père, de qui je suis séparée, mais ça, on s'en fout. Non, c'est important aussi. Et en fait, la sous-directrice, donc était quand même une femme, n'adressait la parole qu'au père. Et donc moi, voilà, elle le regardait droit dans les yeux, elle ne me regardait pas. Sauf quand il a fallu signer, donc c'était le chef de famille qui devait signer. Donc évidemment, elle lui tend le papier. Ben non, comme c'est moi, il est domicilié chez moi, c'est moi le chef de famille. Et là, elle a tiré une de ses têtes, mais c'était incroyable, quoi. Mais donc, oui, ça, c'est aussi quelque chose que souvent, quand il y a un homme à côté, on s'adresse à l'homme et pas spécialement à la femme, quoi. Même si c'est une femme en face, quoi. C'était juste une anecdote parce que ça me faisait penser quand tu disais, voilà, je rentre dans une pièce, c'est à moi qu'on s'adresse.
Oui, mais et alors je pense qu'à partir du moment où on commence à se pencher sur cette thématique, on se rend compte de toute une série de choses, mais constamment, quoi. En plongeant dans cette campagne, j'ai effectivement... Enfin, en fait, je pense que dans pratiquement tous les sujets sociaux, en fait, il y a quelque part quelque chose de sexiste ou de patriarcal qui est encore ancré. Et même si on est dans une société encore largement démocratique, où les femmes peuvent travailler, conduire, ont les mêmes droits juridiques que les hommes, en fait, il y a encore effectivement pas mal de choses à changer, quoi. Et donc, en tant qu'homme, c'est juste être autour d'une table, autour d'un verre, discuter et puis écouter en fait aussi les femmes, quoi. Vraiment les écouter sans pour autant se sentir agressé systématiquement, quoi. Mmh. Et il faut faire ça dans une bienveillance généralisée.
Dans des groupes mixtes.
Ouais, alors là, les groupes mixtes, c'est encore autre chose. C'est vrai que c'est intéressant, les groupes mixtes, dans le sens où y a, en tout cas dans le processus, quand on veut participer à une réflexion sur ces thématiques-là, les groupes mixtes, que ce soit des groupes que d'hommes ou des groupes que de femmes, permettent en tout cas une certaine libération de la parole, quoi. Donc je sais que du côté des femmes, il y a un partage d'expérience et un partage de violences vécues, en fait, qui se fait plus facilement. Des choses qui ont été inconsciemment intégrées par les filles comme étant normales, et en fait, en discutant ensemble, elles se rendent compte que non. Et du côté des hommes, c'est plutôt, ok, comment est-ce que nous, en tant qu'hommes progressistes, on peut arriver à discuter de ça sans pour autant directement arriver à un conflit avec des femmes, même qu'on comprend, tu vois. Mais souvent, moi, c'est... Je dis ça souvent. En fait, il y a beaucoup de mecs qui se disent féministes. Ils disent, ouais, mais moi, je comprends pas. Dès que je fais une petite blague, on me saute à la gorge. Et en fait, c'est aussi dans ce genre de groupe-là qu'on peut s'expliquer, je pense, parce que j'ai des potes qui... à qui j'ai fait des blagues sexistes à la fin d'une journée, mais à la fin d'une journée où elles se sont ramassées toute une série de comportements sexistes tout au long de la journée, où elles l'ont fermé, quoi. Et donc à la fin de la journée, elles explosent sur moi et sur ma petite blague à la con où je dis ce serait pas à ton tour de faire la vaisselle. Et là, évidemment, t'as l'impression que c'est disproportionné parce que tu portes sur le dos tout le patriarcat du monde, mais en réalité, c'est juste que t'es la personne à l'endroit où tu es qui est catalyseur de cette violence qu'elle a vécue toute la journée. Et donc parfois, effectivement, les discussions sur le sexisme ou le féminisme peuvent amener à des réactions. Et donc là, en l'occurrence, nous, en tant qu'hommes, on doit juste ne rien dire, en fait. Enfin, on ne doit pas leur dire comment elles doivent se comporter par rapport à nous. On ne doit pas dire comment est-ce qu'elles doivent réagir face à une agression sexiste. Je pense que, justement, dans ces groupes mixtes de femmes ou dans le processus qu'elles peuvent faire, elles vont trouver les solutions. Nous, on est là en tant qu'alliés, quoi. On est là si on peut donner un coup de main. Et surtout, si on arrive déjà à déconstruire pas mal de nos comportements, ce serait un bon coup de main.
Un truc de compréhension, quoi, en fait, qui doit y avoir.
Ouais, compréhension, discussion, mais découverte aussi, quoi. Ouais. Vraiment découverte. Je crois qu'on se découvre pas mal de propres, de comportements qui nous sont propres.
Du coup, est-ce que le Festival Esperanza est un festival féministe ?
Ouais, moi, je pense, oui, fondamentalement. Fondamentalement qu'il est féministe, en tout cas dans les projets qu'il a envie de mener, dans la manière dont il a envie d'être cohérent. Mais après, voilà, il est féministe intellectuellement, quoi, et il essaye de l'être dans ses pratiques. Il est dans son discours, mais on n'est jamais, jamais cohérent à 100%, quoi. Donc il faut, on a encore du chemin à faire, comme tout le monde, ouais.
On se passe un petit morceau de musique et puis on verra comment on décline, comment vous avez décliné cette thématique sur le festival.
Radio Esperanza.
Radio Esperanza. Thank you.
Donc, Karim Maghili qui sera présent sur Esperanza dimanche pour l'ouverture de la scène Côté Jardin.
C'est beau, hein, Karim Maghili, ça va être sympa pour se remettre de la veille.
Surtout ça, oui.
C'est le samedi soir ou c'est la plus longue nuit d'Esperanza ou c'est le vendredi soir, je ne sais plus.
Ça finit par Acide Arabe à 2h30, mais je sais plus si, je crois que c'est...
C'est vendredi, Acide Arabe, non?
En tout cas, c'est quand Acide Arabe joue que ça finit Excel plus tard, ouais.
Ouais, je vais tenir mon fils éveillé jusque-là. Bref, on va revenir à le déclin de l'Empire du Mal avec Jérôme, responsable de la thématique sur le festival. Alors, comment se décline la thématique en concret, concrètement?
Alors, il y a eu des projets avant le festival qui vont se concrétiser pendant le festival. Et il y a des spectacles liés à la thématique. Et il y a des workshops liés à la thématique par des collectifs du Village des Possibles, des collectifs invités, des collectifs déjà présents depuis l'année dernière. Et alors, on va commencer peut-être par le cinéma, parce que chaque année, il y a évidemment des films qui sont projetés au cinéma en lien avec la thématique. Il y a par exemple le film Amal, qui retrace le parcours d'une Égyptienne sur la place Tahrir durant le printemps arabe. Une Égyptienne qui, du coup, dans ses rêves de révolution, voulait aussi une émancipation de la femme. Bon, malheureusement, on a vu qu'aujourd'hui, ce n'est pas totalement le cas, mais en tout cas, c'est intéressant
l'espoir
de voir...
L'espoir était permis.
Oui, exactement, de voir le parcours et l'espoir de cette femme à ce moment-là. Il y a le film Wagga Girls, sur des mécaniciennes à Ouagadougou, qui du coup essayent de, ben, ne fût-ce que lutter pour avoir un minimum de crédibilité auprès des chauffeurs et des clients en tant que femmes mécaniciennes. Et puis on a le film Big Girls aussi, de Nadja Harek, qui est un film sur des femmes qui dansent dans le hip-hop. Donc ils font des big girls quoi, et donc c'est le parcours de quatre femmes, enfin qui le parcours de quatre femmes, quatre générations différentes de la danse hip hop. Et Nadja Harek, la réalisatrice, sera aussi présente, tout comme le réalisateur de Amal, Mohamed Siam, qui vient en direct de Paris pour venir commenter leur film. Ensuite, on a dans l'espace débat, on a plusieurs débats, je vais les citer quelques-uns qui sont particulièrement marquants pour moi. D'abord, l'afroféminisme et féminisme musulman, pour l'interrogation, qu'est-ce que c'est?
Ça peut parler.
Vous en avez déjà parlé?
De l'afroféminisme un petit peu.
Excellent. Oui. Et le vendredi, donc, on aura plusieurs invités qui sont elles-mêmes évidemment militantes afroféministes ou féministes musulmanes. Pour nous dire, ben voilà, c'est quoi la différence entre le féminisme classique et ce féminisme-là? Y a-t-il un féminisme blanc? Alors du coup, quel est le privilège des femmes blanches féministes par rapport aux autres, etc. Donc ça va être vraiment très intéressant. Et ça suit en fait le film Ouvrir la voie de Amandine Gay sur justement l'afrodescendance et le féminisme, l'afroféminisme en France. On a un autre débat qui tient particulièrement à cœur le dimanche, qui s'appelle, enfin qui c'est sur la place des femmes dans le hip-hop. Et donc ça me permet de dire qu'en fait toute la journée du dimanche sera consacrée à la place des femmes dans le hip-hop. Il y aura le film Big Girls avec la réalisatrice Nadja Harek. Il y aura ce débat-là avec Nadja Harek évidemment, mais aussi la slameuse Lisette Lombé avec Fatima El Jami qui est la coordinatrice du festival La Belle Hip-Hop. Mm-hmm. Et après suivra ce débat-là deux spectacles de hip-hop mixés avec plein d'artistes différentes qui a été monté spécifiquement pour Esperanza dans le chapiteau Art de Rue dans une première partie avec notamment Cab et Lipa, ce sont deux rappeuses, une DJ.
c'est comme ça qu'on dit à Bruxelles en tout cas.
Non, tout à fait. Et Neftis qui est une autre rappeuse qui fait aussi du soul et qui jouera dans le chapiteau, et ce sera suivi après par un show de live painting dans le Village des Possibles avec la même DJ, en fait ça s'appelle DJ DDKKR et Zumi qui est une fille qui fait du coup du street art quoi. Donc voilà, ça c'est la déclinaison. Bon, après il y a d'autres débats, mais je vous invite évidemment à aller voir sur la programmation.
Il y a la conférence gesticulée de Ma Petite Robe et Minibar.
Tu l'as déjà vue?
Non, mais on l'a invité sur antenne.
Ah, excellent.
Parce que c'est terrible. Enfin, j'ai entendu des échos et vu un peu comme ça, mais.
Bah oui.
Elle est
oui.
Très sympa en tout cas via Messenger.
Julie Tessato, ouais, tout à fait. Et puis après, évidemment, on aura un focus aussi genre et migration. Donc, vu qu'on aura parlé d'intersectionnalité le vendredi, c'est intéressant de voir aussi la condition de la femme migrante et de voir un peu comment est-ce que... Ou la femme sans papier, d'ailleurs. Comment est-ce que dans ces rapports de domination imbriqués, quand on parle du genre, en fait, la femme sans papier est probablement le plus au bas de l'échelle possible. Et d'ailleurs, du coup, on aura deux espaces qui sont consacrés à cette thématique-là aussi, dans le Village des Possibles, coordonné par la CRER, le CIRE, le comité Semira Adamou et le CNCD 1111. Et après, dans le Village des Possibles, il y a plusieurs collectifs qui sont présents, qui se réapproprient la thématique un peu sous tous les angles, quoi, puisque l'idée, c'est appréhender le sexisme à travers plusieurs échelons. Donc, on aura... autant le genre et l'alimentation que évidemment le harcèlement en festival en dehors du plan Sacha dont on n'a pas encore parlé mais dont on parlera peut-être
oui
mais, si on a le temps évidemment. il y aura le genre et précarité aussi. On a ATD Carmonde qui a spécifiquement travaillé la thématique du genre avec son public très précaire et qui justement a un point de vue extrêmement intéressant là-dessus, puisque nous, en tant que classe moyenne au capital culturel, ou en tout cas en ayant le temps de se pencher sur ces thématiques-là, on a toujours un peu des a priori sur comment est-ce que peuvent se comporter les publics plus populaires par rapport à la thématique du genre. Et donc ATD Carmonde a fait un travail avec notamment une animatrice de Vie Féminine qui, elle, a l'habitude de travailler ces thématiques du genre avec des publics plus compliqués, mais mixtes, enfin non mixtes, voilà. Et ATD Carmonde, c'est un public non mixte. Non, pardon, c'est un public mixte. En gros, Vie Féminine, c'est un public que de femmes. ATD Carmonde, c'est un public complètement mixte. Donc, ils ont travaillé cette thématique-là et viennent avec Esperanza avec leurs réflexions. Donc, ça risque d'être aussi super intéressant. Et puis après, c'est décliné aussi au niveau de la scénographie, puisque les Los Niños ont créé une scénographie impériale.
Pour c'est ceux qui font toujours la déco en bas. Hein.
Oui, tout à fait. Pour signifier le déclin de l'Empire du Mal. Et en fait, donc, vu qu'il y a déclin, il y aura évolution tout au long du festival, les trois jours du festival, sur la scénographie en tant que telle. Donc là, ça va amener pas mal de surprises aussi. Ouais.
Et donc, le plan Sacha. Parce que, attends, on va en parler de toute façon dimanche avec Lisette, qui vient d'arriver, qu'on salue d'ailleurs. Donc ça, on en parle dimanche, mais c'est peut-être un peu bête d'en parler on en parlera dimanche. On peut déjà juste...
Ouais, non, mais alors, on en touche un minimum. C'est le plan contre les... Enfin, Sacha, c'est ses attitudes contre le harcèlement et les violences sexuelles, en fait, et les agressions, et donc les violences sexuelles en festival. Et donc il y a des espaces de formation pour les festivaliers et festivalières pour être mieux outillés en tant que victime ou témoin d'incidents de harcèlement. Et par ailleurs, il y a une procédure spécifique qui a été mise en place avec un numéro de téléphone pour pouvoir accueillir la parole.
Que tu as d'ailleurs autour du bras, il me semble.
Tout à fait, autour du bras, tout à fait. 0493 40 52 00.
On a eu le temps de noter, t'inquiète, il y a un podcast, vous inquiétez pas.
De toute façon, il est largement diffusé partout sur le festival au moment de l'ouverture, donc il n'y aura pas de soucis par rapport à ça. Alors juste par rapport à la déclinaison de la campagne, il y a vraiment un projet qui me tient à cœur aussi, auquel que j'ai pas encore parlé. C'est un projet qui a démarré avant le festival et qui s'appelle Je m'appelle Leïla. Donc on a été travailler en fait avec des classes de l'IATA et de Notre-Dame de Namur qui sont en art d'expression, en art de la parole, la thématique du genre, les stéréotypes sexistes, et puis après le combat des femmes pour leur émancipation un peu partout dans le monde. Et donc on voyait un peu différents combats sur tous les continents, quoi. Et ça aboutit à un processus créatif de création, d'écriture, de contes qui vont venir raconter au festival Esperanza. C'est en collaboration avec le FIF, puisque après, une fois que donc les contes vont être filmés face caméra, et puis après évidemment vont être racontés dans le chapitre débat. Et en fait, au FIF, il y aura des élèves de primaire.
Donc le FIF, c'est le Festival International du Film Francophone.
Merci Déborah, désolé.
Je t'en prie, non, c'est bon.
Des élèves d'école primaire qui vont en fait animer les contes racontés par les élèves de secondaire en stop motion, qui du coup seront des courts-métrages de ces histoires racontées par leur père, P-A-I-R-S, plus âgé, sur cette thématique-là. Et ils vont pouvoir, les élèves qui auront raconté Esperanza vont pouvoir re-raconter au Festival international du film de Namur, mais avec des comédiens qui les coacheront. Et ça se terminera par un concert, de nouveau de rap, la belly pop, etc. Donc on continue à faire des liens avec ce qu'on a fait à Esperanza.
Esperanza, c'est pas que trois jours.
Non, c'est toute l'année, oui, évidemment, c'est toute l'année. Et puis, Esperanza, c'est un peu le festival, en tout cas, l'aboutissement de tout un processus qui s'y fait pendant l'année, surtout sur la thématique. Ouais.
Et avec cette année, un média en plus. Donc, il y avait Radio Esperanza, il y a Culte, il y avait le site internet, la page Facebook, le Twitter, l'Instagram, le Snapchat, je ne sais pas. Mais maintenant, il y a...
Il y a tout va bien. Et en fait, c'est vrai qu'on pourrait plutôt le mettre à côté de Radio Esperanza et de Culte. Culte plutôt... Enfin non, en fait, oui, c'est ça. Avec Radio Esperanza et Culte qui sont plutôt sur les trois jours. Et tout va bien, c'est vraiment l'idée de créer un média vidéo tout au long de l'année, quoi. Et par ailleurs, moins présent pendant le festival.
Quoique.
Mais quoique, parce qu'effectivement... donc tout va bien, c'est des vidéos avec, qui sont boostées par un collectif de 12 jeunes qui racontent et qui exposent leur point de vue sur le monde en fonction des sujets d'actualité qu'ils ont envie de traiter. Donc on a deux formats pour le moment. Un format artistique, c'est qui fait vraiment office de petits clips court-métrage sur un sujet particulier mis en scène. Et un autre format, c'est des speeches face caméra animés par du motion design pour vulgariser un peu le contenu qui est édicté dedans, puisqu'évidemment chaque speecher qui vient face caméra a écrit son texte et à bien fouiller le sujet de telle manière aussi à apprendre dans le processus, mais à apprendre aussi aux spectateurs, et le tout évidemment quand même bien engagé, quoi. Donc on a quand même en donnant une vision sur le monde, on a nous-mêmes une vision éthique de ce que devrait être le monde, probablement un peu, oui. Et donc tout va bien sera présent dans le cinéma entre les séances. Donc avec une scénographie un peu spéciale où seront projetées les vidéos, et sera présente dans l'espace débat, puisqu'en fait on captera des moments de l'espace débat qui seront après diffusés sur notre page Facebook et page Instagram.
Voilà, j'avais dit Instagram. Mais donc, tout va bien, qu'on retrouve sur la page Facebook d'Esperanza. Il y a une page tout va bien aussi d'ailleurs, non?
Oui, il y a une page tout va bien, le plus facile c'est www.toutvabien.tv. Et alors à partir de là, on a les quatre réseaux sociaux, les quatre liens vers les quatre réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.
YouTube, c'était ça. Bah oui, c'est de la vidéo, c'est ballot. Autre chose ?
On va sûrement, vite, mais demain,
de toute façon, on aura une promenade comptée avec Fred Coles, qui est donc ton collègue.
Tout à fait.
Qui ne pourra pas venir en direct pour l'émission du soir, mais donc on va se promener demain dans l'abbaye, en bas, en fait, dans le village au possible, le futur village au possible, pour parler justement plus précisément de ce village. Donc. Voilà, alors Jérôme, en tout cas, aussi, on voudrait aussi te remercier là, au nom de Radio Esperanza, parce que c'est quand même un peu grâce à toi aussi qu'il y a cette radio, et ça, il faudrait quand même le signaler.
Oui, bon, grâce à moi, je fais pas grand-chose quand même. Hein.
T'es le patron quand même.
Non, justement. Alors,
tu réponds au mail, oui, voilà. C'est essentiel.
Tu réponds au mail, voilà, c'est ça. Il répond, dès qu'on a une question, un mot, un geste, Jérôme fait le reste.
Avec un délai de plusieurs jours parfois.
Oui, non, mais voilà, donc c'était quand même aussi ramener les choses clairement, quoi. Voilà, bah, écoute, je te remercie beaucoup d'être venu à l'antenne. On te recroisera bah, évidemment tout au long de ces... jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de ces 4 jours qui restent de Radio Esperanza. 3 jours de festival, ça s'annonce bien ?
Ouais, ça s'annonce bien, il va faire beau, la programmation est ouf, les places se vendent bien.
Oui, j'ai vu un post qui vient de passer qu'on est presque au bout des
3 jours.
Ouais. Ouais.
Non, ça va être une belle édition, ouais. Je le sens bien.
Je pense aussi, en tout cas, la thématique est très enthousiasmante.
Tout à fait.
Voilà. Merci, Jérôme. Et je vous propose, pour nous quitter, d'écouter justement une de ces capsules qui sera du coup audio, bien entendu, de Tout va bien. C'est celle sur le sexisme, si je ne m'abuse. Ah bah oui, ça rentre bien dans le thème. Allez, merci à tous.
On se retrouve demain à 18h pour Sans contrefaçon.
Radio.
Radio Esperanza.
Esperanza.
La loi sexisme a 4 ans et n'a abouti qu'à une seule condamnation.
Ok, c'est parti.
Le truc avec cette loi, c'est qu'elle ne s'attaque pas vraiment au problème du sexisme. En fait, c'est juste de l'enfumage politique, principalement pour 3 raisons. Tout d'abord, parce que cette loi, elle est inapplicable et inefficace. Prenons l'exemple de ma pote Sarah. Le matin, elle sort de chez elle pour aller au boulot. Sur son chemin, un type l'insulte.
Tu pourrais sourire, la sale pute.
Elle connaît l'existence de la loi et donc elle décide d'aller porter plainte. Mais il va lui falloir une preuve, genre un enregistrement ou des témoins, et puis aussi un moyen de retrouver l'individu. Si jamais elle s'amène comme ça au commissariat, je vous laisse imaginer l'accueil qu'elle va recevoir. C'est pas un hasard si le seul cas de condamnation qu'il y a eu, c'est quand la victime était une policière. Et puis quand bien même le type est condamné à une amende ou à une petite peine, qu'est-ce qu'il aura appris au final ? Rien. Cette loi, elle est taillée pour le harcèlement de rue. En fait, c'est complètement assumé. Joëlle Milquet, elle a fait cette proposition suite à un reportage qui avait suscité l'émotion dans les médias à l'époque. C'est une étudiante qui se filme en train de marcher dans la rue et on la voit qui se fait siffler, insulter, harceler. Et en fait, le truc, c'est que le sexisme, c'est pas que le harcèlement de rue. C'est partout, tout le temps. C'est profondément ancré en nous depuis notre tendre enfance. Les stéréotypes sexistes, il paraît qu'on les intègre dès l'âge de 3 ans. Sarah, en réunion, elle se fait interrompre beaucoup plus souvent qu'un homme. Souvent, c'est pour reformuler ce qu'elle vient de dire, comme si elle s'exprimait pas assez clairement. Ou alors, c'est carrément pour s'approprier ce qu'elle vient de dire. Autre exemple. Tous les jours, elle doit quitter le boulot plus tôt que ses collègues parce qu'elle va chercher ses enfants à l'école. Son mec, lui, il peut pas parce qu'il bosse tard, on lui a confié un nouveau projet et bon, voilà. Parce que comme dans la plupart des familles belges, Sarah consacre 35% de temps en plus au travail quotidien que son homme. Évidemment, ce travail, il n'est pas payé et il n'est pas valorisé. Cette loi, elle a été adoptée suite à ce reportage qui est tourné à Annecence. Et dans ce reportage, on voit clairement que tous les mecs qui la font chier, c'est des Arabes. Et comme le lien entre ce reportage et la loi, il est clairement assumé par le législateur, c'est comme si on disait « En fait, le sexisme, c'est que dans certains milieux. Ça ne concerne pas l'ensemble de la société, c'est juste quelques individus. » Alors qu'en fait, non, le sexisme, c'est un problème collectif, structurel. C'est tout ce qui permet de justifier la domination des hommes sur les femmes. Parce qu'encore aujourd'hui, la société, elle est encore largement organisée par les hommes. Ils se répartissent les décisions, l'argent et le pouvoir. Ça se voit dans la publicité, dans le choix de qui parle dans les médias, qui parle au Parlement, qui occupe les postes à responsabilité dans les organisations ou dans les entreprises. Et puis même aussi dans les mesures gouvernementales. Les mesures d'austérité, par exemple, elles impactent beaucoup plus fort les femmes et elles se retrouvent encore plus fragilisées qu'avant. Mais au final, ma pote Sarah, elle est blanche, hétéro et issue de la classe moyenne. La situation sera bien pire pour elle si elle subit d'autres formes d'oppression, par exemple liées à sa classe, à sa couleur de peau, à son orientation sexuelle ou encore à sa religion. Donc il est grand temps de sortir de l'hypocrisie et de donner de vrais moyens à la lutte contre le sexisme et les autres formes de domination. Ça passe obligatoirement par la sensibilisation, par l'éducation et par la formation. Et puis, si déjà, chacun, chacune, on interroge nos pratiques au quotidien, au travail, à la maison et même dans la rue, bah, ça changera déjà énormément de choses.
Excellent, Louise, excellent.